Bonjour et bonne fête des pains sans levain. Aujourd'hui, je voudrais commencer avec deux questions. Première question, c'est qui Dieu a-t-il fait sortir d'Égypte? Qui Dieu a-t-il fait sortir d'Égypte? Deuxième question, qui Dieu a-t-il conduit dans la terre promise? Qui Dieu a-t-il conduit dans la terre promise? Il existe maintenant de nombreuses façons de répondre à ces deux questions. Vous pouvez étudier l'archéologie en étudiant les rapports de fouilles qui ont eu lieu en Égypte et dans le delta du Nil et dans la péninsule de Sinaï et même à Jérusalem. Vous pouvez étudier l'histoire, en particulier l'égyptologie, pour chercher à comprendre comment les Égyptiens vivaient et régnaient à cette époque, et donc comment les enfants d'Israël auraient vécu pendant ces 430 ans passés en esclavage en Égypte. Vous pouvez étudier l'histoire d'autres civilisations anciennes dans la région. La quantité de travail consacré déjà à ces domaines est stupéfiante. Des tomes et des tomes existent sur chacun de ces sujets. Heureusement, les réponses à mes deux questions et les leçons que nous sommes censés apprendre des enfants d'Israël ont été conservées dans la Bible. Heureusement pour nous, nous avons une copie de cette Bible dans nos maisons. Examinons ces deux questions, et pour ce faire, nous devons bien sûr poser d'autres questions supplémentaires et examiner pas mal de passages de la parole de Dieu. Donc maintenant, vous avez pensé probablement à l'Exode en Égypte. Vous avez peut-être pensé à tout ce que nous avons vu avec notre étude de l'Exode. Exode chapitre 12, la sortie des enfants d'Israël, la définition de ce que c'est la Pâque de l'Ancien Testament. Mais nous allons d'abord aujourd'hui considérer un passage dans le livre d'Ézéchiel, dans les prophéties d'Ézéchiel. Ézéchiel, bien que sa vision prophétique a attiré l'attention des anciens d'Israël, quand il a suivi les ordonnances, les commandements, les instructions de l'Éternel, lorsqu'il a commencé à prophétiser dans son lieu à côté de Babylone. Donc Ézéchiel a attiré l'attention parce que il faisait des choses, si vous connaissez le livre d'Ézéchiel, il faisait des choses assez bizarres, mais aussi il disait des choses étonnantes. Donc il prêchait, il prophétisait des choses très étonnantes. Et donc nous voyons ici en Ézéchiel, nous avons en Ézéchiel chapitre 20, les anciens de cette époque, les exilés, bien sûr, avec lui, se sont approchés et ils ont demandé une explication à Ézéchiel. Donc Ézéchiel était là et ces anciens sont maintenant venus interroger le Seigneur, vraiment, c'était dans ce sens-là, ou l'Éternel, par son intermédiaire. La réponse d'Ézéchiel sur ces questions illustre le problème chronique d'Israël avec le péché. C'est un problème qui revient en chaque génération, presque. Ils se sont rebellés en Égypte, même en Égypte. Ils se sont trompés en marchant dans le désert. Puis, une fois entrés en terre promise, ils se sont même rebellés contre ou lorsqu'ils sont entrés dans la terre qui coulait le lait et le miel. Ézéchiel chapitre 20, à partir du verset 1. Alors, nous pouvons commencer ici au verset 1. La septième année, le dixième jour du cinquième mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi, Ézéchiel. Verset 2. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, quand les personnes ont demandé à lui, c'est l'Éternel qui l'a donné la réponse. C'est magnifique, ça. C'est ce que nous cherchons tous, n'est-ce pas? Quand Pierre parle d'être toujours prêt à répondre à chaque question, c'est que notre désir soit comme ici, notre désir, c'est que l'Éternel répond à travers nous. Verset 3. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur. L'Éternel, veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Donc, c'est un peu intéressant ici que la réponse est destinée non pas seulement aux anciens d'Israël, que moi je ne vais pas vous répondre, mais il dit en même temps à Ézéchiel, veux-tu les juger? Et donc, s'il veut les juger, c'est un jugement que Ézéchiel va prononcer ici. Verset 5, tu le diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob. Et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis que chacun rejette les abominations qui attirent ses regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, mélangé plusieurs fois ici, nous avons « Je suis l'Éternel » pour nous confirmer que c'est bien l'Éternel qui parle, que ce n'est pas simplement la réponse d'Ézéchiel. Verset 8. « Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles d'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux. » Et nous notons cette expression aussi, ça va apparaître plusieurs fois. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Donc, on est dans cette première rébellion, entre guillemets, c'est dans le pays d'Égypte. Puis, verset 9, « Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et je leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Donc je note ici que malgré la rébellion qui a eu lieu en Égypte, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a quand même tenu parole dans son alliance avec Abraham, bien sûr, qui est passé par Isaac et Jacob jusqu'en Égypte avec Joseph et puis les enfants d'Israël qui sont allés en Égypte. Donc, il a quand même tenu parole et il a donné quand même pas mal de choses. Il leur a donné sa loi, son sabbat. Son nom, il s'est présenté aussi. C'est intéressant, c'est important dans la Bible que Dieu se révèle par son nom à son peuple. Donc, quand même, ces choses sont intéressantes que malgré leur rébellion, il dit ici, je leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique. Puis, on continue au verset 13. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances. que l'on doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert. Donc encore une fois, pour les exterminer. Néanmoins, j'ai agi par écart pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Encore une fois, il agit pour que son nom ne soit pas profané. Puis verset 15, « Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné. » Donc, arrête, il a levé sa main pour dire « Non, vous n'entrerez pas tout de suite. » Et puis, bien sûr, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Verset 16, « Cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigne pas de leurs idoles. » Donc, voilà, nous avons une réponse à ma première question. Qui est sorti d'Égypte? Qui Dieu a-t-il fait sortir d'Égypte? C'est quand même cette génération rebelle et infidèle. Et on va y revenir là-dessus. Mais il y a une autre génération, finalement, qui est entrée en terre promise. Ici, nous avons déjà considéré les réponses, ou la réponse. Quasiment la même réponse à chaque fois que les enfants d'Israël se sont rebellés contre lui, il a eu quand même une réponse de ce qu'on dirait la grâce ou la miséricorde ou une sorte de patience pour ne pas les exterminer. Il aurait pu à chaque fois les exterminer, il aurait pu à chaque fois les abandonner, mais malgré leur rébellion, il voudrait et il veut toujours accomplir son plan. Son plan, sa parole sera accomplie. Il est tellement puissant et sa parole est tellement puissante que sa parole va s'accomplir. Sa réponse était bien sûr basée sur les promesses qu'il a faites à Abraham en Genèse 14, toutes les promesses à Abraham et ses descendants. Et aujourd'hui, nous sommes quand même les bénéficiaires de ces promesses également. Dans notre nation spirituelle, nous allons bientôt en parler, mais nous tenons ça en compte aussi, le fait que l'Éternel n'a pas agi juste d'après la conduite d'une génération ou une autre, mais c'est important toujours que son nom ne soit pas profané. On peut profaner son sabbat comme les enfants d'Israël l'ont fait, mais l'Éternel ne veut pas s'associer avec une nation qui a fait des rébellions, qui est infidèle et qui fait de l'idolâtrie ou l'adultère avec d'autres nations. Donc, il ne va pas forcément bénir cette génération dans la même façon qu'il va bénir une génération suivante ou montante. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le désert. L'Éternel s'est décidé de ne pas laisser entrer. Il a levé sa main contre eux dans le désert parce que cette génération n'allait pas bénéficier de connaître la terre promise. Même s'ils avaient vu les fruits, même s'ils, comme nous savons, ils ont envoyé les espions et les espions sont revenus et ils ont vu ce que poussait dans le pays, mais cette génération n'est pas entrée en terre promise. Donc, si nous regardons ce passage sur la base de ce que Dieu décrit comme une rébellion, nous voyons que la rébellion n'est pas limitée à une seule fois. Ils étaient rebelles en Égypte, ils étaient rebelles dans le désert, et malgré tout, nous savons que plus tard, après l'entrée en terre promise, cette même groupe s'est rébellé contre lui aussi. Mais nous voyons que Dieu avait définitivement, ou il avait sûrement, des raisons de les détruire complètement. Il aurait pu les détruire complètement. Mais comment Dieu a-t-il répondu? Verset 17, c'est ce que nous avons déjà lu, mais je vais le relire ça. « Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisis pas. » je ne les exterminai pas dans le désert. La pitié de l'Éternel est incroyable. La pitié de l'Éternel a permis à cette nation de continuer. Et la pitié de l'Éternel agit même aujourd'hui. Même s'il les a épargnés, par contre, de la destruction, de l'extermination dans le désert, ils ont quand même souffert des conséquences de leurs actions. Et la conséquence majeure pour cette génération dans le désert, c'est que eux, ils n'avaient pas accès, ils n'ont pas reçu l'accès à la terre promise. Deutéronome chapitre 1. Nous allons commencer au verset 35. Deutéronome chapitre 1. Ou plutôt au verset 34. Nous avons ici la réponse à ma question. Quelles étaient les conséquences? L'Éternel, verset 34, entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ça continue, verset 37. Il y a une exception. Une exception, c'est Caleb. L'Éternel, verset 37, s'irrita aussi contre moi à cause de vous et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. C'est sous la main de Josué que la terre a été conquise par les enfants d'Israël. Verset 39, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, donc ils sont jeunes, ils sont des petits, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Donc nous sommes en train de voir ici une génération montante, une génération à part, une génération choisie pour entrer en terre promise. Mais l'autre génération est décédée. Mais ceux qui sont appelés aujourd'hui pour faire partie de l'Église de Dieu, pour suivre la voie de l'Éternel, pour obéir à sa loi, ses ordonnances, pour connaître Jésus-Christ et le Père qui a été révélé par Christ, ceux qui sont appelés aujourd'hui sont également une génération choisi. Considérons ce que Pierre nous indique dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Les mots que je viens d'utiliser ne sont pas les mêmes, mais le sens est là. Le sens est là. Et nous voyons des parallèles énormes quand nous considérons ce que Pierre dit ici et ce que l'Éternel a dit à son peuple dans l'Ancien Testament. Son peuple choisi. Donc Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Notez que Pierre ne dit pas que vous êtes une génération parfaite, mais il dit vous êtes une, ou il ne dit pas une génération, mais le mot race, correspond à une génération. Donc, une race élue, un peuple, ici, il parle d'une nation sainte, mais il ne dit pas que ces personnes appelées sont encore parfaites. Nous avons quand même du chemin à faire devant nous pour, et avec l'aide de Dieu, pour devenir vraiment perfectionnés. Mais ici, le mot élu, la race élue, c'est le mot eklektos du grec. Et selon la concordance de Strong, ce mot signifie favori ou sélectionné ou choisi, comme je vous ai dit, une génération choisie, comme la génération dont nous lisons dans Deutéronome chapitre 1. Donc une génération choisie, une race élue. Et ce n'est pas non plus la première fois dans la Bible où ces expressions apparaissent. Pierre ajoute le mot saint pour la nation sainte aussi. Le mot grec ici, c'est agios, qui veut dire, nous savons, mis à part pour un but particulier. Donc, ce sont quand même des paroles assez élevées, si vous voulez, pour un groupe de personnes qui est censé obéir, mais qui, de temps en temps, ne fait pas le bon choix et reprend le péché. C'est pour ça que nous avons besoin chaque année d'être rappelés que nous sommes obligés de sortir de cette voie du péché. Ce n'est pas seulement une fois par an que nous nous examinons. Nous nous examinons de temps en temps pendant l'année et idéalement tous les jours. Nous devrions méditer nos actions, nos pensées, nos paroles pour s'améliorer et pour se corriger quand on est en chemin. Mais je voudrais vous illustrer que Pierre a emprunté quand même des expressions de l'Ancien Testament qui ont été déjà employées par l'Éternel pour décrire son peuple. Juste pour quelques références ici, très intéressantes quand on considère que ce n'est pas simplement quelque chose que Pierre a inventé. Exode chapitre 19 et le verset 6, nous allons juste balayer quelques exemples ici, quelques références, pour que vous ayez aussi ces références dans vos pensées. Exode chapitre 19 et le verset 6. Je vais juste commencer à lire en verset 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Intéressant que ce n'était pas du tout simplement quelque chose qui est apparu par la parole de Pierre, mais c'est quelque chose qui a été déjà considéré ici dans l'Ancien Testament quand Dieu, quand l'Éternel, quand celui qui est devenu Jésus-Christ, conduisit le peuple de l'esclavage en Égypte vers la terre promise. Il était en train de créer, et bien sûr, Dieu, le Père, le Fils étaient en train de créer une nation sainte. Et pour, quand même, nous avons déjà lu en Ézéchiel, c'était pour son nom aussi et pour accomplir l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc tout ça a commencé en Genèse, mais le reste, la suite n'est même pas terminée. Ça continue, ce grand plan continue jusqu'au retour de Jésus-Christ et même après. C'est sûr que même après, jusqu'au dernier grand jour, la signification du dernier grand jour. Donc nous sommes, nous, en train de faire une étape parmi plusieurs dans le plan divin du salut. Un autre exemple ici, je vous ai donné Exode 19, mais maintenant Lévitique 19 et verset 2. Lévitique 19 et le verset 2. Lévitique 19 et le verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Donc déjà, cet aspect, de, comme nous avons lu le mot grec « agios » ou « saint », traduit en français « saint », c'est un mot qui est particulier et qui est utilisé pour décrire non seulement l'objectif de mettre à part ce peuple, mais comme il dit ici, « Je suis saint, donc tu seras saint aussi. » Ça impacte notre conduite. L'idée, c'est que si je suis saint, si nous, en tant qu'un peuple, si nous soyons saints, si nous sommes saints, notre conduite devrait représenter le Dieu qui nous a appelés, qui nous a fait mis à part, celui qui nous a appelés saints. Donc, chapitre 20, dans le même livre ici, Lévitique chapitre 20, et puis le verset 26. C'est dans le contexte de cette distinction entre les animaux purs et impurs. Et puis le verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Même ce que nous consommons, la viande pure ou impure dans le mauvais cas, est un résultat de notre position, si vous voulez, d'être choisi, d'être mis à part, d'être saint. Et c'est que notre objectif devrait d'être, non pas seulement pour nous, mais pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu, c'est pour ça que nous essayons de devenir ou de rester saint, parce qu'il a placé son nom sur nous, son peuple. Donc, encore un exemple de ce mot « agios » ou « saint ». Et maintenant, reportons-nous pour une dernière référence ici en Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Et le verset 12, « On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. » Donc encore une fois, c'est quelque chose qui doit continuer pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement quelque chose qui était pour le passé, mais Pierre nous rappelle de cet objectif, que ceux qui sont appelés la nation de Dieu, ceux qui sont associés avec le nom de l'Éternel, qu'ils ont une certaine responsabilité, ils ont un certain sens de rester une génération, une race élue, une génération sainte, une nation sainte, et on devrait aussi garder en tête l'idée d'être un sacerdoce royal. Je dirais que le sacerdoce royal est en train de se préparer pour vraiment notre accomplissement lors du retour de Christ et la première résurrection, quand les gens seront changés, les prémices seront changées pour vraiment remplir cette idée d'être un sacerdoce royal, parce que la couronne ne sera pas donnée avant. Donc, pour reprendre ce que nous avons dit tout à l'heure, nous sommes une race élue, nous sommes, entre guillemets, dans une autre façon de dire, une génération choisie. La patience et la miséricorde de Dieu sont depuis toujours. Il était et il est patient dans ses relations avec son peuple, qui n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits en nous-mêmes. Et c'est bien de savoir que, dans le passé même, quand la génération a été infidèle, Dieu a commencé à continuer à œuvrer, à continuer à accomplir son plan malgré leur désobéissance. Et c'est la même chose pour nous. Est-ce que nous allons changer? Est-ce que nous allons rester fidèles? Si nous sommes élus, ça a un sens d'être fidèles jusqu'à la fin. Mais le fait que nous soyons choisis ne veut pas promettre ou garantir que c'est tous ceux qui soyons choisis qui vont arriver au bout de piste. Donc, nous avons ça à considérer. Notre comportement est important, en particulier dans la vie chrétienne, parce que maintenant nous avons directement accès à notre Père Céleste par Jésus-Christ. Nous n'avons plus, comme il a été écrit en Hébreu, nous n'avons plus un sacerdoce ici, lévitique. Nous n'avons plus un sacrificateur humain qui est à l'interférence ou l'intermédiaire entre nous et Dieu. Donc, l'importance de cette compréhension est encore plus importante aujourd'hui pour le chrétien. Donc, que pouvons-nous apprendre de cette génération choisie mentionnée en Deutéronome et en Ézéchiel et aussi dans ces autres références, dans ces autres passages? Quel est le but d'une race élue? D'après la concordance de Cruden, l'idée de ce mot race élue ou génération, c'est un engendrement ou une production, quelque chose qui est produite, ou la personne ou chose produite en elle-même. Et nous avons, c'est déjà la confirmation dans le Nouveau Testament, que si Dieu commence une œuvre, il va le terminer. Donc il va continuer à travailler avec nous. Il est miséricordieux envers nous. Donc nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes bénis d'être entre les mains de l'Éternel. Il travaille avec nous. Et nous avons besoin de savoir et de se souvenir, lors de cette fête des pains sans levain, que Dieu travaille avec son peuple depuis toujours. Considérant le psaume 78, c'est toujours un psaume pour moi qui est essentiel pendant ou en préparation pour la fête des pains sans levain. Psaume 78. Quand on commence à se voir en groupe comme une génération choisie, comme une race élue, il y a une certaine responsabilité qui vient avec. Et donc, le verset 5, psaume 78 et le verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Donc on voit vraiment un contraste entre ceux qui étaient infidèles, qui n'avaient pas le cœur à Dieu, et ceux qui allaient les remplacer. Nous voyons ici que lorsque Dieu travaille avec un peuple, une nation sainte, ou même à notre niveau, un individu, il peut aussi les faire, même s'ils sont de mauvais exemples, ils peuvent servir comme exemple pour les autres. Habituellement, cet exemple nous aide à comprendre jusqu'à quel point Dieu est puissant et combien nous avons vraiment besoin de son aide, de son intervention dans notre vie. Nous ne pouvons pas l'accomplir toute seule, mais nous devrions rester attachés, accrochés à Dieu. Dieu travaille à travers nos fautes. Il travaille en nous pour nous perfectionner. Dieu œuvre en nous malgré nos faiblesses. C'est ça qui est magnifique. Il a pris de l'argile et il va faire des rois spirituels, une famille divine de l'argile, de la boue. Dieu a choisi d'intervenir pour cette génération dans le passé, celle qui succéderait le peuple qui est sorti d'Égypte. Ce n'était pas leur foi, ce n'était pas leur fidélité qui qui était à cause, la cause de leur sélection, de leur, du fait qu'ils étaient choisis. Il a choisi ceux qui avaient prévu de faire entrer en terre promise. Il avait choisi les tout petits, les enfants qui ne connaissaient ni le bien ni le mal. Et c'est ça qu'il fait avec nous. Quand il commence avec nous, nous ne savons pas ni le bien ni le mal. Et puis, par sa loi, par ses commandements, il nous instruit, il nous prépare, il nous développe un caractère en nous, un caractère qui correspond à lui. Donc, la génération qui remplace la génération précédente n'est pas choisie parce qu'ils sont... Ils sont déjà parfaits. D'un autre point de vue, on peut dire que l'Éternel a simplement choisi d'attendre. Si nous considérons le fait que c'était deux générations qui sont passées, l'une qui est sortie d'Égypte, l'autre qui est entrée en terre promise, en principe, c'était juste le temps. Il peut attendre simplement que cette génération précédente meure et qu'il travaille avec une génération future. Ils étaient bloqués dans le désert, ils étaient perdus, ils n'étaient pas capables d'entrer en terre promise, et cette génération est morte dans le désert. Donc, dans un certain point de vue, Dieu n'a qu'attendre pour qu'une autre génération soit prête à accomplir son plan. Et il le fait aussi avec des individus. Si on n'est pas capable, si on n'est pas prêt, nous ne pouvons pas juste se rebeller contre Dieu et d'être infidèle et puis attendre d'être chargé de mener à bien les prochaines étapes de son plan. Il y a des conséquences à nos actions. Donc, souvent, l'homme va se pardonner assez rapidement et Dieu nous pardonne. Mais il y a des conséquences associées avec nos choix, des conséquences qui font que nous n'avons peut-être pas le rôle que nous aurions pu avoir si nous étions restés fidèles. Maintenant, nous allons reprendre Ézéchiel chapitre 20 parce que nous allons lire d'une génération qui a grandi dans le désert, et qui est entré en terre promise. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20, à partir maintenant du verset 18. Nous avons terminé tout à l'heure avec le verset 17. Maintenant, nous sommes au verset 18. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas de leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Je trouve, pour faire une petite parenthèse ici, dans l'Église de Dieu même, il y a de temps en temps, les jeunes qui ont grandi dans l'Église, leurs parents ont été appelés du monde, et eux, ils ont grandi, et de temps en temps, ils se disent, et ils nous disent en tant que ministère, ils disent, j'ai l'impression que c'est la foi de mes parents, et je n'ai pas encore le sens que ça soit ma foi à moi. Ce n'est pas souvent le cas, mais il y a de temps en temps les jeunes qui disent ça. Je trouve très intéressant ce verset ici, où l'Éternel se révèle à cette génération aussi. Ils étaient déjà dans le désert, ils étaient déjà sortis d'Égypte, mais maintenant ils se révèlent dans une manière plus personnelle à cette génération. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il ne dit pas « Je suis juste simplement le Dieu de vos pères. » Il dit « Je suis votre Dieu. Suivez mes préceptes. Et il le dit en contraste à l'idée que nous avons souvent, faites ce que votre père a fait et vous allez réussir. C'est ça que le monde dit souvent, c'est que si on fait ce qui est bien de ce que nos pères nous ont enseigné, si on suit les traditions des hommes, on va réussir quand on a du succès. Mais Dieu ne dit pas, l'Éternel dit ici, de ne pas suivre ce que les pères ont fait, mais de suivre ses ordonnances et de les mettre en pratique. Verset 20. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le sabbat est toujours un signe entre le peuple de Dieu et Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Oh, malheureusement, eux aussi, ils se révoltèrent contre lui. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Nous avons déjà entendu ça, maintenant c'est la troisième fois. Verset 22. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Donc maintenant, l'Éternel pense aux nations qui les entourent. Il ne veut pas que les nations qui les entourent voient la conduite de ce peuple et disent « Ah, leur Dieu les fait faire comme nous. » Non, c'était les choix des enfants d'Israël en rébellion. Donc il a retiré sa main, puis verset 23, « Dans le désert, je levai encore ma main vers eux, pour les disperser parmi les nations et les disséminer en divers pays. » Ça, c'est indiqué dans le désert, mais nous savons que les 10 tribus du Nord ont été quand même pris par l'armée assyrienne. Ils étaient dispersés dans plusieurs pays. Ils étaient dispersés, ils étaient punis. Maintenant, il ne reste que ces 2 tribus à Jérusalem et eux aussi. Maintenant, Ézéchiel est exilé, et donc il reste juste le fil qui reste. Et puis, on sait que plus tard, les Perses vont laisser rentrer ce peuple en exil. Mais on est déjà maintenant dans une situation où Dieu permet aux armées de les disperser parmi les nations. Verset 24, « Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père. » Donc vraiment, une répétition, une sorte de problème générationnel avec le péché, avec la rébellion. Ils se comportent comme leur père. C'est une faiblesse et ça nous illustre aussi, encore une fois, le besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu en nous. Jusqu'à combien ça nous aide, c'est infiniment. Donc, nous considérons que finalement, ils sont entrés dans la terre promise, mais nous savons que si on arrive ici à Ézéchiel et on va avoir le jugement qui est prononcé en Ézéchiel, cette génération et les générations suivantes ont été quand même rebelles. Même s'ils avaient de bons rois de temps en temps, le résultat final, c'était qu'ils étaient des rebelles. Donc, comment, encore une fois, cette idée d'une génération choisie, une race élue, se rapporte-t-elle à l'Église? Jean chapitre 6, et nous considérons toujours le contexte de la sortie d'Égypte, le désert, la provision de Dieu dans le désert, et maintenant le fait que c'est Dieu qui nous est sorti. C'est Dieu qui nous est sorti de la voie du péché, de l'esclavage du péché. Et il nous protège dans cette nouvelle voie. Considérons Jean chapitre 6 et le verset, à partir du verset 31. Jean chapitre 6 à partir du verset 31. Donc nous avons une foule qui est approchée à Jésus. Nous avons des Juifs parmi cette foule qui sont en train de disputer avec Jésus. Ils sont en train de demander un signe. Ils sont en train de demander un signe. Et donc, voilà, nous avons ici leur explication. Verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Mais si on considère, je suis à commencer au verset 31, mais si on commence au verset 30, c'est « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu ?» Voyons, il demande un miracle. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » C'est un miracle. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ils connaissaient les Écritures. Ils connaissaient l'histoire, au moins, l'histoire de leur peuple. Jésus répond au verset 32. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Donc encore, c'est « donne-nous ce pain. » Jésus leur dit, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Oh, c'est quand même un miracle beaucoup plus fort que ce que nous avons vu dans le désert, la manne donnée à manger pour le jour. Mais de ne plus avoir faim, de ne plus avoir jamais faim, ça demande quelque chose. C'est un changement spirituel qui va s'effectuer, n'est-ce pas? C'est la vie éternelle. De quoi? C'est de ça qu'il parle. Verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc nous connaissons que c'est Christ qui a accompli la volonté du Père et qui aussi est l'équivalent ici, il se déclare comme le pain de vie. Si on mange de ce pain, on n'aura jamais soif, on n'aura jamais faim. Celui qui croit en lui. Donc, l'Église dans le désert a été menée par l'Éternel Dieu, celui qui est devenu Jésus-Christ, celui qui parle ici. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui mène son Église aujourd'hui. Il est la tête de l'Église. C'est son corps spirituel. Et il est à la tête de son corps spirituel. Bien sûr, il s'en sert de la main du ministère aussi, comme ils s'en servaient de Josué, de Moïse. Et le ministère aujourd'hui sert de berger, mais la tête est toujours Christ. Même si les troupeaux ont des bergers, la tête est toujours Christ. Donc, cette génération choisie, est menée par Christ aujourd'hui. Nos ennemis sont détruits aussi. Les armées de l'Éternel marchaient devant les enfants d'Israël quand ils sont entrés en terre promise. C'est bien décrit en Josué, dans les premiers chapitres de Josué. On voit quand même l'ange de l'Éternel se présente à Josué en disant, « Voilà, les armées vont marcher devant toi. » Et puis, ils prennent quand même la ville de Jéricho. Donc, il les a aidés à vaincre les ennemis du pays. Aujourd'hui, il nous aide à vaincre également. Nous sommes dans une lutte spirituelle. C'est bien décrit par l'apôtre Paul, cette lutte spirituelle qui est en cours. Puis aussi, les enfants d'Israël, comme c'est quand même raconté ici en Jean chapitre 6, ils ont vu des miracles impressionnants dans le désert. La manne qui est tombée du ciel, la nourriture, l'eau qui est venue, Donc, tout ce que Dieu a donné, tout ce qu'il a donné à son peuple pour les donner à manger, donner à boire, c'était des miracles. Ils ont vu la nuée, ils ont vu la colonne de feu. Donc, ce sont des choses qu'ils ont vues dans le désert. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui pour nous montrer sa main dans notre vie? Notre foi n'est pas conditionnelle à ce qu'il nous a montré. Notre foi n'est que renforcée lorsque Dieu nous montre sa main dans notre vie, qu'il intervienne pour nous. Nous prions, nous demandons à Dieu en prière qu'il intervienne pour nous. Combien de fois avons-nous été guéris quand nous avons reçu cette bénédiction de la guérison, quand nous avons demandé à Dieu d'être guéris et il a intervenu pour nous? Combien de fois? Encore une fois, notre foi n'est pas conditionnelle à ça, mais nous devons comprendre que c'est la choix de l'Éternel. Ce n'est pas nous qui vont prédire ce que l'Éternel doit faire, mais il nous dit de demander quand même, de demander dans la foi, et il va nous répondre. La réponse n'est pas toujours ce que nous avions prévu, mais si on regarde en arrière notre vie, c'est pour nous tous, j'espère que vous aussi, nous tous pouvons voir la main de Dieu les nombreuses fois qu'il a intervenu pour nous. Donc, la génération dans le désert est quand même assez pour nous, en tant que l'Église de Dieu, c'est une parallèle très fort. C'est une parallèle à garder en tête pendant cette fête des pains sans levain. Nous sommes comme eux dans un sens. Nous sommes menés par Christ. Nous sommes quand même nous sommes entourés avec sa protection. Il nous donne à manger. Il nous donne ce pain qui nous donne accès à la vie éternelle. Et il fait des miracles dans notre vie. Est-ce que nous avons prévu de rester fidèles? Ou est-ce que finalement, est-ce que l'Éternel va dire, malheureusement, cette génération n'était que des infidèles, et donc j'ai dû attendre pour travailler avec une génération montante. J'espère que nous voyons l'importance de cette comparaison, de cette idée que nous sommes choisis, nous sommes une race élue, pas à cause de nos actions, mais parce que Dieu nous a choisis. Et ce que Dieu a choisi, ce qu'il est en train de faire, c'est de créer ce sacerdoce royal, c'est de préparer ce sacerdoce royal pour l'avenir. Ce n'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de très profond. Mais il nous a pitié. Lorsqu'on nous étions dans le péché, il n'a pas attendu que nous changions, que nous soyons parfaits pour nous choisir, pour nous appeler. Il a commencé à zéro. Il a commencé avec son appel et nous avons quand même fait, nous nous sommes engagés quand nous avons pris le baptême et quand nous avons reçu l'imposition des mains pour recevoir l'Esprit de Dieu, nous avons quand même commencé à marcher avec lui, à marcher en nouveauté de vie. Donc, pendant cette fête de pain sans levain, j'espère que nous avons gardé, nous allons garder notre objectif de mettre le péché hors de nos vies. J'espère que nous allons se souvenir de cet engagement. Cet engagement, tout ce que nous avons considéré avant de s'engager et tout ce que nous avons laissé derrière nous quand nous avons pris cet engagement de marcher en nouveauté de vie. Paul explique que quand on regarde ces choses que nous avons laissées dans le passé, ils deviennent rien par rapport à ce que Dieu nous a promis, par rapport à ce que Dieu prépare pour nous dans l'avenir. Donc, j'espère que nous avons considéré plusieurs fois déjà dans ces premiers quelques jours l'importance de manger le pain de vie, parce que ce pain doit vivre en nous. Jésus-Christ vit en nous et nous devons permettre à Jésus-Christ à agir en nous en faisant sa volonté, la volonté de Dieu, la volonté du Père, finalement. Cette génération choisie, est-ce que ça sera une génération élue? Est-ce que ça sera une génération qui restera fidèle? Si oui, cette génération entrera dans le royaume de Dieu au retour de Jésus-Christ. Mais cette génération, cette race élue d'aujourd'hui, doit incarner la pureté et la vérité. Tout comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5 et le verset 6 à 8, il indique que c'est la pureté et la vérité. Nous avons déjà lu ce passage plusieurs fois, mais la sincérité ou la pureté dans notre engagement envers Dieu, la sincérité ou la pureté dans notre foi en Dieu doit toujours rester solide. La sincérité d'éviter et de mettre à part, de sortir de la voie du péché et de s'examiner pour enlever le péché et les mauvaises habitudes qui nous mènent au péché, cette pureté doit être soulignée pendant cette fête des pains sans levain. Si nous sommes purs, nous sommes sans levain. Si nous sommes purs, c'est Dieu nous aide à trouver nos fautes, à s'examiner et à les éliminer. Ça se fait pas toujours avec un claque des doigts, mais si on se met là-dessus, nous pouvons changer avec l'aide de Dieu. Nous pouvons faire bouger des montagnes, n'est-ce pas? Donc nous avons aussi une pureté, une sincérité dans notre amour fraternel les uns pour les autres. Et pendant cette fête, j'espère que nous allons rester en contact pour parler de ce que Dieu fait dans notre vie, dans nos vies, pour partager les bonnes nouvelles, pour rester en contact si nous sommes malades, si nous sommes en besoin. Nous avons cette responsabilité. Ce sont les caractéristiques de base de cette pacte avec laquelle Dieu est en train de travailler. Vous pourriez dire que c'est une pacte choisie, une pacte élue, une génération choisie. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc notre travail pour mettre à part le péché, pour éliminer le péché de nos vies, ne doit jamais perdre sa place dans la liste de nos priorités. Et c'est ça le rappel de cette fête des pains sans levain, c'est que il faut qu'on garde l'élimination du péché en haute priorité dans notre vie. Même si nous sommes très occupés, nous devrions tous avoir le temps pour méditer et pour s'auto-examiner, pour éliminer le péché. Est-ce que le péché s'introduira pour gonfler à nouveau cette pâte de l'orgueil, de la méchanceté? Il est possible. Mais cette génération pourrait aussi rester fidèle jusqu'à point de nous permettre d'accomplir la dernière étape de son plan. Donc, nous avons une tâche devant nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous portons son nom. Il s'est associé avec nous. Et si nous restons fidèles, nous allons toujours porter son nom parce qu'un jour, nous deviendrons partie de la famille divine. Donc, que les jours à venir soit rempli de joie dans cette compréhension pour nous tous. Et quand les gens se demandent qui sont ces gens-là que Dieu a appelés dans son Église, qui sont ces gens-là? Et j'espère qu'ils disent, ils sont certainement sincères et purs, ils respectent la vérité, et voilà le peuple de Dieu.